Salut Jonathan, on est dans un petit café à Londres, je viens juste d'arriver et ça me fait très plaisir de te voir. On se voit à chaque fois en général que je viens à Londres. Nous on se connaît depuis très longtemps. Je me demandais dans le train en venant, mais j'ai pas fait le calcul. Ça va faire 15 ans à peu près. Voilà, tu travailles dans le web depuis très longtemps. Et voilà, j'avais envie qu'on ait une petite conversation parce que j'ai envie d'avoir ton avis un peu sur ce qui se passe avec le monde de l'IA, et notamment parce que toi, tu as une vraie expertise, je pense, autour de tout ce qui est e-commerce. Donc voilà, même en dehors de l'IA, de toute façon, enfin, tous ces sujets un peu d'e-commerce, c'est un truc dont je parle rarement dans mon podcast. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis voilà, comme ça, on fait un petit catch-up. Est-ce que tu veux peut-être, en quelques mots, te présenter ce que tu fais aujourd'hui, en ce moment?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci Alexis. Je suis aussi super content de te voir. Je suis le fondateur d'une agence e-commerce, de développement e-commerce basée à Londres. On travaille pour des marques DTC, donc des marques qui vendent leurs produits directement aux clients, basées en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et on est une équipe de 8 personnes.
Ok, pas mal. Voilà. Ça a augmenté depuis l'année dernière, non?
Ouais, alors dans le business d'agence, il y a toujours des hauts débats, mais on a eu pas mal de projets, pas mal de boulot cette dernière, depuis les 18 derniers mois, on va dire, qui nous ont permis de grossir.
Ouais, d'ailleurs, ça serait intéressant, en fait, peut-être je vais tout de suite partir dans un sujet, mais qui m'intéresse pas mal et qui intéresse aussi les gens qui écoutent mon podcast, c'est vraiment le business de l'agence. Est-ce que tu peux me raconter un peu peut-être les 5 dernières années? Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu le Covid, il y a eu toi, c'est quoi un peu ta perspective là-dessus? Sachant que toi, alors peut-être juste, attends, on va remettre en contexte. Voilà, moi je fais des podcasts pas du tout structurés. Donc t'es dev depuis toujours quasiment, t'as fini tes études, t'as commencé à être dev, t'as fait une agence en France que t'as revendue, t'es venu en Angleterre, t'as bossé un peu à ton compte, t'as bossé dans une agence, non? C'est quand que t'as fondé cette agence-là
Ouais, alors je suis arrivé en Angleterre il y a, je crois, 11, plus ou moins 11 ans.
Putain, c'est pas vite.
Ouais, je travaillais pour une agence au début. Et puis comme j'aimais bien l'e-commerce, j'ai commencé à faire des missions en freelance. Et puis, je voulais aussi être indépendant. J'ai commencé à faire des missions en freelance dans ce domaine-là, donc en e-com pour des startups au UK. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'avoir un peu plus de contrôle sur... l'équipe avec laquelle je travaille, sur les budgets, sur les relations clients, etc. Donc j'ai essayé de me lancer. Et donc j'avais pas vraiment de plan, j'avais pas d'économie, pas de plan, etc. J'ai, sur un coup de tête, je me rappelle, c'était en janvier, il y a plus ou moins 5-6 ans maintenant. C'était au début de l'année, puis au moment où normalement je vais chercher mon prochain contrat en freelance. Cette fois-ci, j'ai décidé de pas travailler comme ça et d'essayer de trouver des contrats par moi-même.
Des contrats un peu plus gros, du coup.
La différence, c'est qu'avant, quand je dis des contrats en freelance, c'était des
pour des agences.
Ou c'était pour des agences ou des sociétés où j'allais en présentiel.
Et tu faisais que le dev.
Et je faisais
vraiment. Alors que là, tu t'es dit, je veux être direct au contact du client.
Voilà. Et je me suis dit, là, je voulais essayer de prendre plusieurs projets. Donc, j'ai trouvé un projet sur Twitter, un petit projet pour une agence qui faisait un site d'IMO. Et j'ai commencé comme ça. Je me dis, bon, allez, on y va. Et alors, je t'avoue qu'au début, c'était hyper dur. Comparé avec Paris, où j'avais un peu un réseau, je connais pas mal de monde, etc. De faire ça à Londres, c'était hyper compliqué. Au début, ça m'a pris pas mal de temps. Il y a eu pas mal de galères, mais c'est des bons souvenirs de se sentir libre, de se lancer, de se sentir libre et de commencer comme ça. C'était...
Donc, t'avais déjà
l'expérience d'avoir fait ça. Oui, voilà. Mais après, ça a pris du temps de trouver des clients un peu plus sympas, un peu intéressants, parce que c'est un peu comme repartir de zéro, parce que on n'a pas de track record, en fait.
Donc ça, c'était 2019, 2020.
Plus ou moins.
Donc avant le Covid, quoi.
Donc ouais, l'année avant le Covid. Quand Covid est au moment du Covid, en gros, pas mal de galères. On avait un client qui est une startup sympa qui a commencé à marcher au UK, qui avait levé des fonds, etc. Donc ça nous a permis de commencer à, J'étais toujours seul, mais ça nous a permis de commencer à avoir une première personne dans l'équipe. Mais on n'avait pas, l'activité n'était pas dingue. Et en fait, quand il y a eu le Covid, au début, ça a fait un peu peur. Je me suis dit, c'est pas le meilleur moment de lancer une boîte. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que tout le monde, tous mes clients, j'avais pas beaucoup de clients, mais tous mes clients, toutes mes connaissances, etc., me contactaient parce que e-commerce, c'est devenu la clé pendant le Covid, une des activités.
Donc, en fait, pour toi, quelque sorte, c'est bien tombé, quoi. Enfin, je dis bien tombé, bon, on s'entend, mais il y avait des opportunités.
Il y a eu beaucoup de boulot, ouais. Alors, ils disent que l'e-commerce a grossi x10 pendant le Covid.
Ok.
Donc nous, on était deux. Et en quelques mois, je me rappelle, il y avait une période où j'en bossais une personne par mois. En quelques mois... On est passé de 2 à, je crois, au maximum, on était 6 ou 7 pendant la période du Covid.
Ouais. Juste une petite question, comment ça se passe ici? Quand tu dis embaucher, c'est des contrats, c'est des freelances, je ne sais pas du tout comment ça marche, ça, au Royaume-Uni, quoi.
Alors, les deux, c'était comme en France, hein, en gros, il y a les deux options, freelance ou contrat de travail. Moi, mon approche, c'était de faire des contrats de travail.
Ok.
Et d'embaucher au début, en tout cas, d'embaucher des jeunes développeurs que je formais au boulot. Alors, parfois, des devs qui avaient juste fait un bootcamp.
Ok, c'était pas trop galère, ça
Non, alors, faut trouver le bon profil, personne avec qui tu travailles.
C'est un peu qui tout double, non? Moi, je trouve que c'est... Si tu trouves les bons et qui sont loyaux et qui restent avec toi, t'as tout gagné. Mais s'ils sont mauvais, déjà, ça te prend du temps. Et si en plus ils sont bons, mais qu'après ils se cassent et que tu les as formés, tu as perdu quoi. Mais...
Ouais, alors la première personne que j'ai embauchée, c'était ce cas-là où elle avait fait un bootcamp, elle était talentueuse, et en quelques mois elle a appris en gros. Et moi, c'était vraiment le début, on n'avait pas les budgets pour payer des salaires, on était un peu en dessous du marché. Et du coup, elle est partie au bout de 9 mois travailler en finance. Une boîte de finance qui a doublé son salaire, moi je voulais la garder, mais je pouvais pas concurrencer avec ça. Par contre, après, on a eu d'autres expériences qui ont été positives là-dessus, et puis maintenant, voilà, on est dans les, on a les plus gros clients qui nous permettent de payer des salaires du marché, voire mieux.
De bien staffer les gens, enfin. Hein.
Voilà.
Ok. Ah, c'est cool. Bah, bravo, déjà. Et donc, après le Covid, est-ce qu'il y a eu, vous avez eu un peu un passage à vide aussi à un moment où, parce que je te demande aussi, parce qu'en France, il y a vraiment eu ça. J'ai l'impression que là, il y a deux moments. C'est-à-dire qu'il y a un peu peut-être 2022, 2023 où l'économie s'est un peu resserrée. Et maintenant, là, depuis l'hiver dernier, moi, je parle avec beaucoup d'agences no-code où il y a aussi des difficultés du fait de l'IA, du fait de différentes choses. Enfin, il y a moins de financement des startups, je sais pas, toi, tu as une vision un peu sur tout ça.
Ouais, alors, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, d'une part, pendant Covid, c'est vrai qu'il y avait pas mal de levées de fonds. Donc,
beaucoup d'argent qui a circulé, qui a été injecté.
Dans la tech, dans le e-commerce, etc. Il y avait pas mal de levées de fonds, donc il y avait du travail pour nous en tant qu'agence, énormément de boulot. Je me rappelle que je travaillais. On a commencé à ce moment-là à travailler avec les États-Unis, donc je travaillais le soir. En gros, 17h heure de New York, c'est 22h au UK, donc je travaillais en général jusqu'à 22h minimum tous les jours. On a eu l'équipe qui a grossi. On a eu énormément avec le taf. L'équipe qui a grossi, le nombre de clients qui a été multiplié. Et donc on a bossé non-stop. Et l'équipe aussi, pas que moi, mais on a tous bossé non-stop pendant pas mal de temps, donc il y a eu un côté un peu burn-out à la fin quand ça a commencé à se calmer. À un moment où c'était dur, aussi le fait de grossir vite, c'est compliqué d'être bien organisé, donc d'obtenir les résultats qu'on souhaite.
Je trouve que ça, c'est vraiment le truc le plus dur avec une agence, c'est de gérer la croissance, quoi.
Donc il y avait cet aspect-là, et je pense que je pense que d'autres agences ont eu des expériences similaires. Et après, en plus de ça, il y a eu un moment où... le e-commerce, les investisseurs e-commerce, je pense, sont un peu, ont un peu réduit les investissements sur ces sujets-là. Il y a eu toutes les boîtes tech qui avaient vachement embauché, qui ont commencé à aussi virer des gens. Donc, il y a eu tout un cycle où vraiment, il y a une surchauffe et ça s'est calmé.
Ouais, moi, je me souviens, par exemple, une boîte comme Stripe, qui pourtant, à mon avis, marche très, très bien. Je crois que c'est en 2023 où ils ont viré 10% des gens. Enfin, il y avait ce truc ils avaient trop recruté parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Préventivement, ils ont viré des gens. Enfin, il y avait tout un truc un peu où c'est des signaux un peu négatifs.
Ouais. Donc, on a eu... et puis voilà, moi, ça aussi m'a mené à voir les choses un peu différemment, me dire est-ce que vraiment ce qu'on veut, c'est grossir, ou est-ce qu'on va être une plus petite équipe qui fait du travail de qualité. Donc, pendant un certain temps, on s'est recentré là-dessus. Il y a des gens qui sont partis, donc on n'a pas viré des gens, mais il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ont eu ce aspect un peu burn-out. Ils se sont dit, OK, là, c'est un peu trop. Donc, des gens qui sont partis, on a aussi viré des clients. On s'est dit, on va garder que les meilleurs clients. Et puis les clients qui c'est plus facile de travailler, etc.
Juste peut-être d'ailleurs, j'aurais dû te demander plus tôt, c'est quoi un peu les technos que vous utilisez, enfin tu vois, c'est quoi genre les projets vraiment que vous livrez pour vos clients?
Alors on travaille beaucoup avec JavaScript, React, Node.js. Donc ça c'est la base des projets qu'on fait. Après, avec Shopify, qui a beaucoup grossi ces dernières années dans l'e-commerce, qui est devenu un peu une référence, on fait beaucoup de Shopify aussi, des thèmes Shopify. Donc, le langage Shopify, c'est Liquid pour créer des thèmes.
Personnaliser des Shopify, des choses comme ça, mettre en place. Puis, il y a des notions aussi dans Shopify, non, d'extension, des choses comme ça, non, qui se codent pour ajouter des fonctionnalités.
Oui, voilà, alors il y a des apps, il y a des apps, on peut... modifier les apps, on peut créer des apps. Et puis les thèmes, la majorité du travail, c'est sur les thèmes, ouais, d'améliorer des thèmes sur l'aspect visuel surtout. Voilà.
Et donc désolé, je t'ai interrompu dans justement un peu ce que tu disais là sur un peu les cycles. Et donc là, on en est où là, sur l'année qui vient de passer pour toi, tu vois, ton ressenti un peu
Donc on a eu cette période un peu calme pendant un an et demi, plus ou moins. Et puis progressivement, on est revenu parce que si l'idée d'un business, c'est de grossir et d'avancer, etc. Donc je pense que ça a permis de poser de bonnes bases pour nous permettre de grossir de façon plus calme et plus modérée.
Ouais, parce que tu dis l'objectif, c'est de grossir. C'est pas obligé de...
C'est pas obligé, on va dire que l'envie est revenue de repartir là-dessus. Ouais. Mais c'est venu de façon plus organisée. Ça a permis de changer la façon de travailler, en gros. Je pense qu'il y a eu des erreurs. J'ai fait des erreurs, je pense, dans la gestion de l'agence qui ont fait qu'à un moment, quand on était vraiment au pic d'activité, c'est compliqué pour nous de livrer le meilleur travail pour les clients. Et là, avec la réorganisation et aussi l'équipe, j'ai de la chance d'avoir des membres de l'équipe qui sont avec moi depuis quasiment le début maintenant. Et donc, eux, ils sont beaucoup plus seniors. Ils peuvent gérer beaucoup plus de choses. Donc, ça permet aussi de traiter des...
C'est quoi un peu la structuration de l'équipe sur les 8 personnes
Et alors, donc, nous, c'est que du dev. C'est que des devs. Donc, l'idée, c'était vraiment...
Pas de gestion de projet,
On a arrêté ça. Ça, c'était vraiment le sujet, le gros point pour nous. C'est qu'à un moment, on s'est dit... À un moment, je me suis dit, la clé pour grossir, c'est d'avoir un chef de projet, et ça n'a pas du tout marché pour nous. Je pense pour
ça,
pas
ça
mal de raisons.
Ça m'intéresse, tu me racontes.
Et en fait, pour nous, c'est vraiment l'aspect pur dev, et c'est ça ce qu'on propose aux clients, c'est de dire, on est une équipe de devs, on est tous des devs, je suis un développeur, mon équipe est des devs, c'est-à-dire que... Okay. Et les conversations qu'on va avoir, ça va être que sur ces sujets-là. Donc,
une vision très technique, quoi. Toi, tu es en front avec les clients, c'est toi qui négocies les contrats, j'imagine.
Oui, ouais.
Mais une fois qu'un projet, il arrive, comment vous organisez, quoi?
Alors, l'équipe aussi parle aux clients. Donc, en effet, l'aspect commercial, c'est moi. Mais après, tout le monde peut parler, tout le monde discute avec les clients. Et on a des Slacks. En général, on a un Slack, on a des calls hebdomadaires, etc. Et puis, on est comme l'équipe de dev de nos clients.
Mais franchement, je trouve ça hyper intéressant parce que quelque part, je pense que c'est un peu la vision que j'avais pour Simplon Prod, tu vois, mais qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire. Mais tu vois, parce que comment tu fais pour que des devs, alors après, il y a dev et dev, hein, mais pour que spontanément, en quelque sorte, ils s'organisent, comment est-ce qu'ils décident, ce qu'ils doivent faire, quand, tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais, alors ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien donner. Alors après, exactement, je pense que c'est dans le choix des personnes avec lesquelles on va travailler. Je pense qu'au départ, c'est de trouver des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont passionnées comme moi, et qui n'ont pas, c'est pas forcément un truc d'études. On a, je crois qu'il y a pas une personne, il y a qu'une seule personne dans l'équipe qui a un diplôme de dev et qui a passé son diplôme pendant pendant le travail avec nous. Mais à part ça, personne n'a un diplôme dans ce domaine-là.
D'ailleurs, toi-même, t'as fait une école de commerce.
Si ouais, même moi, ouais. Donc c'est vraiment des gens qui veulent coder, qui aiment coder, qui aiment voilà ce feeling de, je pense, un truc partagé qu'on a dans l'équipe, c'est quand on livre un site ou quand on finit un travail sur une page, de regarder la page et de voir que c'est une belle page web, une fonctionnalité qui fonctionne bien, ce plaisir de construire quelque chose. Donc, d'abord, avec des gens qui ont cette envie-là, et après, les laisser travailler comme ils ont envie. Donc, moi, je donne maximum de flexibilité. Mon rôle, je pense, en tant que fondateur de l'agence, évidemment, l'aspect commercial, trouver des clients, etc. Mais c'est aussi de défendre l'équipe, de m'assurer que ils vont pas travailler après la fin de la journée, que c'est pas de livraison le vendredi qui va stresser tout le monde. Si un souci avec un client, alors j'ai l'avantage justement d'être développeur aussi, donc s'il y a un problème technique, un souci ou autre, je peux toujours aller faire le travail qu'il y a à faire en fin de journée ou un week-end s'il y a besoin. Essayer de faire en sorte qu'ils soient heureux et que parce qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de satisfaction de ce business-là, c'est aussi de travailler avec des gens avec qui on travaille avec une équipe sympa et de
ah bah oui, carrément. Hein.
Donc ouais, je pense que ça. Et donc, alors pour nous, dans ce contexte-là, quand on avait un chef de projet, en fait, le chef de projet comprend pas forcément les requêtes du client. Alors après, c'était aussi pareil, un choix de personne. Mais pour moi, c'était dur de trouver une personne là-dessus parce que c'était pas ma spécialité.
Bien sûr.
On avait c'était un peu des frictions avec les clients. Il y avait les questions de la compréhension des thèmes. C'était plus compliqué.
Chef de projet, c'est un rôle qui est très très dur dans les agences et c'est hyper classique. Moi, j'ai vu ça dans toutes mes expériences, tu vois. Enfin, ça se passe toujours mal. Enfin, c'est un peu le cliché et je trouve que c'est dommage. C'est pour ça qu'il y a les méthodes agiles, etc. Mais c'est un peu le cliché que les chefs de projet, c'est les fusibles en fait.
Exact.
T'as les commerciaux qui vendent n'importe quoi. T'as les devs qui sont un peu les rois du monde, qui veulent faire que ce qu'ils veulent. Et donc, au milieu, tu as les chefs de projet qui doivent arriver à joindre les trucs. Et donc, en fait, c'est les fusibles qui doivent faire en sorte que les commerciaux qui ont vendu n'importe quoi, quand même, arrivent à faire aux devs les trucs. Les devs, ils veulent pas. Et tu as un espèce... Bon, là, c'est vraiment la caricature.
C'est bien résumé, ouais.
Mais ça, il y a énormément d'agences, même encore aujourd'hui, qui fonctionnent comme ça, quoi.
Ouais.
Et c'est dommage. Et enfin, voilà.
Et après, je pense aussi, les clients, peut-être sans le savoir, ils se servent un peu de ça aussi. C'est-à-dire que sur l'aspect commercial, ils jouent un peu de ça, je pense.
C'est sûr. Parce que justement, enfin, moi, de ce que j'ai observé dans certaines agences un peu traditionnelles, justement, le commercial ne prenait pas le rôle, comme tu disais, de défendre son équipe. Lui était là juste pour signer un maximum de contrats, donc il allait toujours aller dans le sens du client, en quelque sorte, quoi. Et puis, c'est le problème derrière, après, de la force de travail de gérer, quoi. Mais mais c'est hyper intéressant. Je trouve ça assez inspirant. Moi, c'est vrai que j'ai forcément une vision très technique, tu vois, aussi de ça. Et je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. Et toi, tu nous dis que ça fonctionne. Est-ce que ça aide Est-ce que vous êtes très spécialisé? Est-ce que ça vous aide aussi vous restez dans un périmètre que vous maîtrisez bien? Est-ce que, tu vois, enfin. Ou est-ce que vous prenez des missions aussi très diverses? Est-ce que vous ne faites pas que du e-commerce? Je ne sais pas.
Alors, on prend des missions, vraiment la majorité, c'est du e-commerce. Et je pense, on est vraiment, la spécialisation, on va dire, c'est vraiment e-commerce. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir du boulot intéressant sur ces sujets-là. Après, il y a pas mal d'agences qui sont, surtout aujourd'hui avec Shopify. C'est vraiment, on est une agence Shopify, ou on est une agence BigCommerce, ou Magento, ou Adobe Commerce. Nous, on veut pas faire que ça. Et notre plus gros projet, c'est un projet en partie en .NET, custom. Et je pense que c'est intéressant pour nous. C'est là où aussi on peut vraiment aider les clients. C'est quand il y a des sujets un peu plus complexes que juste un thème Shopify ou autre.
Vous faites pas, par exemple, justement, vous n'êtes pas une agence e-commerce au sens large. Est-ce que vous faites du SEO, tout le temps un peu marketing? Il y a plein de choses en fait, qui gravitent autour du métier du e-commerce. Il y a plein de métiers en fait, là-dedans, du copywriting.
Alors on fait aucun, on fait rien, aucun marketing. SEO, en général, on va faire l'implémentation technique du SEO.
Partie technique.
Et souvent, il y a un expert SEO qui va nous donner une liste de choses à faire. qu'on va implémenter. Le seul truc qu'on fait un peu différent, on va dire, du e-com, c'est que parfois, on a des sites de contenu.
D'accord.
Donc, les sites marketing pour une société de finance. À Londres, il y a pas mal de boîtes de finance. Donc, une boîte qui a besoin d'un site marketing sur lequel on va travailler ou améliorer.
Qu'est-ce que vous utilisez comme techno pour faire ça? Pour faire un site de contenu, par exemple?
Alors, en général, React et un système de API First CMS ou un CMS headless, type Contentful, Sanity.
OK, cloud, quoi. Ou en Contentful, on peut les... Ouais,
Contentful et Sanity, c'est sur le cloud. Donc, WordPress, il faut installer sur un serveur. Contentful, Sanity, c'est un SaaS sur
SaaS,
le cloud.
En SaaS, ouais, OK. Et toi, tu écris le code fond qui va parler avec les API.
Voilà. Ouais.
Et vous n'utilisez pas les systèmes de sites statiques, des choses comme ça, enfin, les générateurs de sites ou...
Alors, on a beaucoup utilisé Gatsby.
Gatsby, ouais.
C'était vraiment notre technologie préférée. Et au moment où j'ai commencé, il y avait pas mal de... Enfin, c'était une des communautés les plus dynamiques. Et en fait, ça a changé récemment, ça a pas mal changé parce que... ils se sont fait plus ou moins racheter. Ils se sont fait racheter par Netlify. Ils ont la communauté. Il y a beaucoup moins de ressources en ligne sur le sujet, etc. Donc on a changé. Maintenant, on utilise beaucoup plus Next.js. Donc c'est pas gérable, c'est pas statique. Parce qu'il y avait pas mal de sujets. Je pense une des raisons qui a fait que Gatsby a perdu en popularité, c'est qu'il y a pas mal de problèmes de scalabilité avec Gatsby. Parce que ça génère un site, mais il y a tout le process de génération qui prend du temps, l'optimisation des images, etc. Donc, ça a amené pas mal de sujets complexes, techniques, dès que les sites grossissent. Ouais.
Ah, OK. Grossissent en termes de contenu, alors. C'est pas un sujet de visite, etc. C'est plus la génération du contenu en elle-même.
En termes de contenu.
Ah, c'est intéressant. Moi, c'est des sujets que je n'ai pas beaucoup creusé. Mais là, j'ai envie notamment, justement, de faire un peu une plateforme avec du contenu. Donc, j'ai un peu investigué tout ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu vraiment cette problématique-là.
Ouais, je pense qu'on pense pas forcément. En fait, quand on voit Gatsby, surtout au début, c'est une expérience utilisateur qui est exceptionnelle parce que il y a pas de rafraîchissement de page. Donc en fait, quand on navigue d'une page à l'autre, la plupart des sites web
instantané,
on voit que ça se rafraîchit. Alors que là, Gatsby, comme c'est statique, c'est vraiment une expérience similaire à une app iPhone où on va changer de tab. Il y a pas de refresh. Ouais. Voilà. Donc c'est ça qui était cool, un peu révolutionnaire, et maintenant. Voilà.
On peut, j'imagine, arriver à des choses relativement similaires, même avec des API. Enfin, t'appelles une API, tu récupères le contenu et puis tu l'affiches. Parce que c'est un peu ça que vous faites, du coup, quand vous utilisez Contentful, où il y a quand même une notion de cache, de génération.
Oui, alors c'est ça. Donc, on récupère tout le contenu. Il y a ce process de build. Donc, on récupère tout le contenu. On construit ça va prendre peut-être 5 minutes. Construire le site, récupérer tout le contenu. Sauvegarder et ensuite générer des pages HTML statiques. L'utilisateur, lorsqu'il consulte le site, il n'y a pas d'appel à la base de données ou à l'API puisque tout est déjà généré.
Ok, d'accord.
C'est ça l'idée. Mais en effet, après, c'est aussi possible de cacher. Next.js, je sais qu'il y a des mécanismes aussi qui permettent de faire ça.
Ok. Non, c'est intéressant. Bon, là, on est rentré pas mal dans la technique, mais bon, c'est intéressant. Et du coup, j'aimerais bien que tu me parles un peu de Shopify. Moi, c'est un outil que je suis pas vraiment... Enfin, je suis un peu de loin. Et c'est devenu vraiment une référence dans le e-commerce. Enfin, nous, on s'est connus à une époque où il y avait du Magento, où il y avait des choses comme ça, qui je sais pas trop si existent toujours. J'imagine que ça existe, mais Shopify, j'ai l'impression, est devenu... Et donc, je sais pas, c'est... Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des meilleures options pour faire un site de e-commerce? Non, c'est...
Alors... ouais, c'est difficile de concurrencer Shopify pour une personne qui commence et qui veut lancer un site. Il y a les thèmes, donc on peut avoir un beau site e-commerce qu'on peut faire soi-même, ouais. sans être de développeur avec un thème Shopify.
C'est
et
pas
cher, je crois que c'est plus ou moins 25 €, ouais. Pour commencer. Puis on a un site, on a un checkout qui est un des meilleurs checkouts, notamment parce que c'est un des checkouts les plus connus. Il y a Shopee qui est un site de paiement. En gros, on crée son compte sur Shopee et sur n'importe quel site Shopify, on va pouvoir payer en un clic. Donc, ça, c'est un super gros avantage de Shopify aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui font que.
Ça s'est imposé.
Ils sont imposés, ouais, comme vraiment la plateforme e-commerce. Et puis, il y a l'écosystème d'app aussi, où si on veut ajouter une fonctionnalité, une pop-up de newsletter, de l'upsell au checkout ou autre, on peut faire ça facilement, ouais.
Et est-ce que. dans le, pour en venir peut-être un peu sur le sujet de l'IA, est-ce que dans le contexte du e-commerce ou de Shopify même, alors c'est deux questions un peu différentes, mais bon, je mélange un peu tout, mais il y a des usages intéressants, toi, que tu as observé de l'IA, les IA génératives, on va dire, enfin, en tout cas, tu vois.
Déjà, c'est vraiment, je pense, c'est à peu près comme dans tous les secteurs.
C'est en train de bouleverser un peu.
Voilà, on trouve ça un peu partout, je pense. Une des grosses applications, c'est notamment avec Gorgias, donc c'est un outil de chat à la base, de chat support, etc. Donc eux, ils ont ajouté de l'IA au système, donc l'utilisateur qui va chatter sur le site va avoir des réponses de l'IA. Après, il y a des outils, après il y a des trucs. Donc ça, c'est des, on va dire des apps qui existent, qui ajoutent des fonctionnalités IA à ce qu'ils ont déjà. Et après, il y a des nouveaux produits. Donc récemment, j'ai rencontré une boîte qui fait des générations de vidéos et d'images pour le e-commerce. Donc en gros, le marchand envoie son produit, des photos de produits au système et il récupère des vidéos avec, le sac qui est porté dans la rue par un mannequin ou des photos. Ouais.
Des mises en contexte, ça, des choses comme ça. Quoi. Toi, tu fais juste une photo de ton produit, j'imagine, je pense, sur un fond blanc, un truc comme ça. Et puis eux, ils vont produire. C'est ouf. Hein.
C'est sympa. Ouais.
Parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. Quoi. Enfin, dans le e-commerce, les photos de. Comment ça? Ça a un nom, les packshots. Les photos produits et tout ça, c'est. Ça a dû mettre plein de photographes sur la paille d'ailleurs, parce que ça, c'était vraiment. Il y avait des photographes qui faisaient que ça, quoi. Ouais. Ou alors, bon, les gens, ils faisaient eux-mêmes avec leurs iPhones, avec des petites chambres lumineuses, là. Mais c'était même un travail juste hyper long, quoi. Bon, il faut toujours quand même faire au moins une photo du produit, mais...
Ouais.
Toutes les mises en... les déclinaisons, les mises en situation et tout, hein.
Ouais. Et puis pour les réseaux sociaux aussi, Instagram, etc., c'est hyper important d'avoir plein de photos, plein de visuels.
Pas mal. Non, mais c'est marrant, tu vois, en venant, là, je lisais un article, en fait, où, tu sais, il y a beaucoup de sujets, tu vois, sur les... autour de comment l'IA... Enfin, tu sais, Sam Altman, je crois que c'est l'année dernière, ou je crois, il y a deux ans, il a dit, grâce à l'IA, il y aura des entrepreneurs, des solopreneurs qui feront un milliard, qui vaudront un milliard, quoi.
Ouais.
Et ça commence à se matérialiser un peu. Bon, le chiffre est extravagant et tout, mais il y a des toutes petites boîtes qui utilisent énormément l'IA et qui, du coup, génèrent des chiffres d'affaires qui sont par salarié très important, quoi. Mais bon, ça, c'est le côté business. Mais même, je trouve que là, si on prend le e-commerce, tu vois, quelqu'un qui veut lancer sa petite boutique, quand tu fais du e-commerce, quand tu es tout seul, tu as plein de métiers à apprendre, quoi. Ouais. Et là, l'IA peut t'aider. Voilà, on parle des photos. Ça peut t'aider aussi, j'imagine, sur le copywriting, enfin, les annonces, les descriptions des produits, les trucs comme ça.
Ouais.
Et vraiment, je trouve que le e-commerce, c'est vraiment un des trucs où ça peut aider une personne seule à vraiment vendre mieux, quoi.
Ouais, c'est vrai que clairement, avec des outils type Shopify
Est-ce que Shopify, ils ont intégré à l'intérieur de Shopify de l'IA, enfin, ou est-ce qu'ils se restent juste sur le côté plateforme
Je suis pas sûr. C'est possible qu'il y ait 2-3 fonctionnalités qui reposent sur l'IA, mais pour l'instant, j'ai pas vu ça encore.
Ouais. Ok, pas spécialement, quoi. Il y a pas de truc genre qui te génère tout seul tes descriptions de produits, des trucs comme ça.
Mais ça m'étonnerait pas que ça vienne. Alors après, il y a des outils qui proposent ça déjà.
C'est vrai que c'est pas forcément pertinent pour Shopify de le faire, tellement il y a d'outils autour qui le font que... Et je pense à un autre truc. Je sais pas, t'as vu passer la news où il disait que le patron là, de Shopify, il avait envoyé un mail à tous ses salariés pour dire que maintenant Shopify c'était une boîte AI first, etc. Je sais pas si t'as...
Ouais, j'ai vu ça. Je crois qu'il disait c'est ça. Il disait ouais, on embauche...
On n'embauche personne.
On n'embauche pas de développeur si l'IA peut le faire.
Ouais. Je crois qu'il disait même, c'était pas que des devs. Hein. Il disait, tout recrutement doit être justifié qu'il n'y avait pas une IA qui peut faire à la place du.
Ah oui, c'est ça. Ouais, alors ça, bon. Non, mais ça ou pareil, j'entendais récemment un fondateur d'une app Shopify qui disait la même chose. Il disait, on n'a plus besoin de dev junior pour construire des fonctionnalités. J'ai créé moi-même. Il utilisait l'IA pour il voulait ajouter une fonctionnalité à son app. Alors lui, il n'est pas technique. Il voulait ajouter une fonctionnalité à son app. Il a demandé à l'IA de lui coder la fonctionnalité. Il a envoyé à son dev. Voilà, j'ai fait le travail.
Si les devs, ça leur facilite la vie. Et puis qu'ils n'ont plus qu'à faire les merge requests, enfin les pull requests de l'IA, des trucs comme ça, c'est pourquoi pas, quoi.
Voilà, alors après, ça, Donc, moi, je t'avoue, l'IA, ça m'a pris pas mal de temps avant de me... Ouais. De me vraiment... C'était dans ma liste à dire, voilà, OK, il faut qu'on regarde comment coder avec l'IA pendant des semaines, des mois avant qu'on le fasse. Et avec tout ça, voilà, Shopify, l'annonce du CEO de Shopify, toutes les conversations que j'ai pu avoir, je me dis, bon, OK, faut qu'on essaye, il faut qu'on le fasse aussi. Et alors, c'est pas aussi simple que... Ouais. En tout cas, dans notre job, c'est pas aussi simple que ça en a l'air.
Moi, je pense qu'il y a vraiment, pour l'instant, c'est un peu un fantasme, le truc de l'IA va remplacer les développeurs. Mais je pense que les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Mais pour autant, je pense que les développeurs prennent un peu trop de temps à aussi intégrer l'IA dans leur process. Mais je pense que c'est pas facile, parce qu'on sait pas forcément comment faire. Toi, tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, vous en êtes à l'étape de l'expérimentation, quoi.
Ouais, alors on en est là. Alors après, nous, ce qui nous a permis de commencer, c'est Cursor. Parce que voilà, c'était dans ma liste, OK, on va coder avec l'IA, mais il y avait à l'époque Copilot, donc petite GitHub. Ouais.
Ça, tu l'avais un peu utilisé ?
Ça, voilà, c'est dans ma liste d'essayer, mais à la base, c'était payant. Après, ils ont fait un gratuit. Donc, bon, c'était... je me suis dit, est-ce qu'on va intégrer cet outil-là ? Est-ce qu'on veut vraiment le faire ? Et puis ensuite, j'ai entendu parler de Cursor, et c'est là où on a commencé. On s'est dit, OK, on va essayer avec ça. Et là, c'était dingue, le test. Mais moi, voilà, avec tout ce que j'entendais, j'essaye Cursor, de faire un test avec Cursor, de fais-moi une app de recherche de recettes, fais-moi un Tetris, et de voir le résultat, le code, la structure du code qui est correct avec. Avec un site fonctionnel ou un ça c'est hyper impressionnant et c'est bluffant. Alors après et ça où ça c'est là où on a commencé à regarder un petit peu et on a fait des expérimentations. Puis on s'est dit OK, on va le faire à partir de ça, on va le faire pour nos projets. Donc on avait un projet récemment on travaille sur un système de booking pour un centre médical aux États-Unis. Et donc, on s'est dit qu'on va demander à l'IA de nous faire ses fonctionnalités. Et là, on a vu que quand on lui demande, donc quand il s'agit de faire du scaffolding, c'est-à-dire faire le premier jet d'une app ou de faire du vibe coding, c'est bluffant et ça marche bien. Mais après, quand on lui demande des fonctionnalités très concrètes, là, c'est quand même un peu plus compliqué. Et tu vas passer
du temps à relire ce qu'il a fait et vérifier qu'il t'a pas modifié des trucs. Et donc,
voilà. Ouais. Mais
c'est intéressant, ça c'est un truc, bon, on en reparlera la prochaine fois que je viendrai, mais tu vois, de voir l'évolution, parce que j'imagine que si vous avez investi ça un petit peu de temps, vous arriverez probablement à trouver, à définir là où ça peut vous aider et là où ça peut vous... Moi, tu vois, mes intuitions, c'est que c'est pas forcément sur le fait de faire à la place des devs, mais ça peut être sur la rédaction de la documentation, faire de la revue de code, faire des audits de sécurité, des choses comme ça, où tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, dans l'intégration continue, l'IA peut se positionner, par exemple, après un premier dev ou tu vois, faire des choses comme ça, quoi. Ou alors, peut-être tout au début aussi. Ça, je pense que pour le démarrage, le scaffolding, comme tu dis, là, il peut y avoir un intérêt. Mais sur des gros projets, je pense, comme vous faites, enfin, des vrais projets de code où il y a des fonctionnalités, là, je pense qu'il y a des choses qui sont encore compliquées, quoi. Notamment parce que les IA ont du mal à prendre en compte toute une code base d'un coup. Moi, je trouve, de ce que je vois. Et ça va changer parce que les fenêtres de contexte vont augmenter et tout, mais pour l'instant, moi, de tous les tests que j'ai faits, comme elle n'arrive pas à comprendre globalement tout ton code, même dans un projet pas très gros, et elle prend des bouts, elle lit des bouts, et donc elle en oublie, et puis, enfin, ça se mélange un peu les pinceaux, quoi.
Après, je pense que ça va venir naturellement aussi pour les devs de travailler avec l'IA, parce que c'est quand même un outil qui peut, à mon avis, va permettre d'augmenter la productivité et puis de chercher des... ça peut aussi être utile pour chercher des réponses. Donc, il y a le gros outil pour les devs, c'est Stack Overflow. Donc, c'est un forum où les gens posent des questions. Je souhaite faire cette fonctionnalité et puis les gens répondent. C'était quand même un outil clé. Et maintenant, en fait, ChatGPT fait ça mieux que Stack Overflow. Donc, demander à ChatGPT plutôt qu'à Stack Overflow, je pense que déjà,
c'est vrai que c'est déjà, ça augmente la productivité.
Pas mal de gens font ça déjà.
D'accord.
Et puis, petit à petit, avec les outils type Cursor ou autre, je pense que ça va venir naturellement.
Ouais, et puis je pense qu'il y a des gens, tu vois, des devs qui vont creuser un peu le sujet, qui vont proposer un peu des méthodos, des choses, pour comment mieux utiliser Cursor.
Ouais.
Il y a tout un truc un peu autour de Cursor sur les curseurs rules, enfin les trucs, les lui donner du contexte sur la manière de coder, des choses comme ça, je pense que ça va faciliter en fait et donner un peu des recettes pour dire aux devs, bah tiens, voilà comment tu peux profiter de curseurs dans le cadre de ton projet.
Ouais.
On verra, écoute, on pourra en parler au prochain épisode. Il va falloir qu'on aille manger. On a une réservation, j'ai hâte de découvrir ce restaurant. Merci pour ce petit échange un petit peu comme ça, un peu à l'impromptu, mais c'était hyper intéressant. Donc écoute, est-ce que tu communiques un peu sur les réseaux sociaux, un petit peu sur LinkedIn ou pas beaucoup?
Je peux me suivre sur LinkedIn, Jonathan Chicly et ma société YYT. YYT,
qu'est-ce que ça veut dire?
Yes Tech. Alors c'est.
Ok, ça va. Je mettrai les liens dans les notes.
C'est notre approche du travail avec les clients. On dit oui à tout. C'est le.
Okay.
C'est
la... okay. Voilà. Un peu voilà. Comme les IA.
Les IA comme les IA.
Pas mal. Bon, écoute, voilà. Merci beaucoup.
Merci Alexis.